chez moi si je m'égare. Ceci me semble être le hammam de ces messieurs dames. Hein.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio BLV 93.6 et aujourd'hui, pour ce mois de mars, j'ai la chance incognito de vous parler d'une femme. Elle est diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, en arts et médias. Elle est un rayon de soleil, généreuse, curieuse, chanteuse, pointilleuse et chef-monteuse. T'as vu la rime ? Voilà, ben j'ai la grande chance d'avoir Sylvie Perrin aujourd'hui à Radio BLV. Bonjour Sylvie.
Bonjour Stéphanie.
Alors, quel est ton métier ?
Alors, j'ai plusieurs métiers, mais celui que j'exerce le plus et en ce moment et qui découle de tous les autres, c'est la réalisation de films documentaires. Donc je suis réalisatrice.
Réalisatrice. Et comment tu en es arrivée justement à cette envie d'être réalisatrice ?
Alors, il faut que je me replonge un peu loin. Je pense que j'ai toujours voulu faire de l'image. Je vais dire de l'image parce qu'en fait, ça a commencé par de la peinture.
Donc, d'accord.
C'était pas forcément du cinéma ou de la vidéo. Toujours intéressée par ça, ouais, des dessins, de la peinture. Et puis après, bah, de la photo et puis du son. Et puis finalement, de l'image qui bougeait parce qu'au Beaux-Arts, j'ai eu l'occasion et la chance dans ce département art et médias qui, à l'époque, parce qu'on est dans les années 90, commence à émerger en France un goût pour la vidéo prononcée. Et puis, on donne un peu aux écoles la chance de s'équiper avec du super matériel. Donc, les beaux-arts qui, à l'époque, sont plutôt sculpture, peinture, dessin, s'ouvrent à des métiers comme ça, plus...
Vers le média.
Vers le média. Donc, j'arrive en même temps, toutes ces belles machines et tous ces projets, je les transpose un petit peu dans cette idée de... Je ne savais pas si c'était du cinéma, en fait, ou je ne sais quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, j'aimais aussi une émission qu'on a dû tous... Enfin, moi, je regardais beaucoup le Top 50. Ouais, j'aimais énormément ce qui se faisait aussi sur les clips vidéo, parce que pareil, au début, il y avait comme ça un engouement pour...
Ouais, c'était le début même de la musique filmée
exactement. Où il y avait des scénarios, où il y avait des vraies belles images, issues souvent de la publicité en termes d'esthétique, et en même temps des histoires. Et moi, je tous les soirs, j'enregistrais sur des VHS, voilà, pendant des heures, et j'avais des collections comme ça, et ça me donnait envie, voilà, de raconter des trucs, quoi.
Donc comment est-ce qu'on commence ? Alors, tu as fait les Beaux-Arts, mais ensuite, qu'est-ce qui t'a amené petit à petit, justement, au montage, et ensuite à la réalisation ?
Alors... c'est toujours des histoires de rencontres, je crois, et je devrais toujours énormément à ce monsieur qui était un professeur, qui s'appelait Michel Madveil. Il est décédé aujourd'hui, mais je lui rends directement hommage parce que ce monsieur, un jour, m'a vu travailler devant mon matériel de montage et puis un projet qu'on avait à rendre. Et il me dit, mais Sylvie, tous tes projets sont assez découpés, il y a une histoire à chaque fois de narration, alors que tous mes potes faisaient plutôt des plans séquences, des choses comme ça. Il me dit, il faudrait quand même que tu t'intéresses un peu au montage et que tu vois un petit peu ce que c'est, je pense que tu pourrais y voir beaucoup d'intérêt. Et d'un coup, je me suis dit, mais effectivement, c'est ça.
Ouais, donc vraiment, ça t'a influencé.
Ah, mais c'était le mot sur ce qui m'intéressait, mais ça restait très flou.
Et quand on parle de montage, quel est exactement ce travail de monteur ou de monteuse ? Parce que nous, on ne se rend pas bien compte. On voit au montage telle personne, on se dit « waouh ». Sans cette personne, bah, le film ne serait pas le même, parce que je pense que c'est aussi assez révélateur de ce qu'on peut voir. Comment toi, tu crées ton montage ?
Alors déjà le montage, ce qui est assez fabuleux, c'est que c'est, contrairement peut-être à ce qu'on peut imaginer comme ça, c'est pas uniquement couper, raccourcir, c'est une troisième écriture. La première écriture, en tout cas sur un documentaire ou même de la fiction, c'est quand le réalisateur, la réalisatrice a son idée puis commencer à coucher sur le papier. Puis ensuite, il y a une réalité qui est celle du tournage, il y a le jeu des acteurs qui va faire que c'est peut-être pas incarné forcément comme vous l'avez imaginé. Il y a les gens que vous allez rencontrer en documentaire qui vont peut-être pas vous dire complètement ce que vous avez projeté, mais au montage, on va faire se rencontrer cette réalité du tournage et celle projetée lors de l'écriture, et on va devoir fabriquer quelque chose avec ça. Et donc là, on intervient, c'est-à-dire qu'on est le premier spectateur aussi, spectatrice des images d'un réalisateur, d'une réalisatrice, et là, il va falloir dire, oui, je sens ce que tu me dis, ou non, je pense que là, il va falloir creuser de l'ordre de la narration, parce qu'à la base, on n'a pas forcément ce que tu projettes qu'il y a dans tes images. Et là, va commencer un travail de construction entre la volonté première de la personne avec qui on travaille, pour qui on travaille, parce que l'élément essentiel, ça reste ce qu'elle veut faire de son film.
Le réalisateur.
Le réalisateur, voilà. Et nous, on va l'aider à amener, via la narration, via les images, le son, la musique et tout cet ensemble, à construire et reconstruire ce qui sera au plus proche de ce qu'elle espérait au départ.
Donc c'est vraiment un travail d'équipe.
Complètement.
Et en tant que monteuse, tu es vraiment un maillon essentiel à la création d'un film.
Ah oui, je pense que, en tout cas, on est un maillon assez invisible, mais on aime bien aussi. Je crois qu'on ne choisit pas ce métier pour rien. On n'est jamais mis sur le devant de la scène et c'est très bien parce qu'on bosse dans notre petite salle de 3 mètres carrés en proximité directe avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ce qui est assez fabuleux, c'est 80% d'humains. C'est-à-dire que vous allez être enfermé pendant 12 semaines avec quelqu'un que parfois vous ne connaissez même pas. Mais il va falloir que ça se passe bien. Parce qu'il y a un film à faire, il y a quelque chose à produire ensemble. Et tout cet aspect un peu comment on aborde l'autre pour lui faire entendre les choses, pour construire quelque chose ensemble, ça c'est passionnant.
C'est purement magique. Parce qu'après, ouais, il en sort un film, un documentaire, une œuvre aussi.
Exactement.
Et comment tu es passé après à la réalisation ? Qu'est-ce qui t'a déclenché cette envie après de passer un peu à la lumière, un peu plus ?
Alors, je crois que surtout, ce qui m'a intéressée, c'est d'aller rencontrer les gens, finalement, que je voyais sur les... parce que ça reste à 90% ce qui me plaît dans ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on a une idée qui doit être incarnée par des personnages, des personnalités. Et puis ces gens, il faut aller les voir, il faut les convaincre, il faut leur donner, faut qu'ils nous donnent leur confiance. Et on ne fait rien sans eux. Et pareil, c'est une histoire de rencontre, quoi. Ouais. Et ce qui m'a donné envie, je crois que c'était ça. Voilà. C'est à un moment donné...
Loin aller... dans ta cabine. Et quand tu réalises, est-ce que tu montes ou est-ce que tu fais appel à quelqu'un pour monter ?
Alors, c'est... Normalement, je dois faire appel à quelqu'un parce que c'est quand même plus constructif.
Ouais, c'est
aussi.
Un autre œil aussi, peut-être par rapport au
Exactement.
Travail du réalisateur.
Et puis, on peut être très seul quand on est et le réalisateur et le monteur. Sauf que moi, j'en suis incapable parce que c'est simplement une façon de penser. C'est-à-dire que je suis incapable de clairement de dire ce que je voudrais qu'il se passe sur la timeline au moment où je le pense et je le fais. Ça passe par mes D'accord. mains, normalement, mmh. et mes doigts. Donc, par contre, j'ai un monteur qui travaille avec moi quand même régulièrement, mais on a trouvé une façon ensemble qui est notre façon de travailler à nous. Je pense qu'il ne travaille pas comme ça avec d'autres réals. Oui, il accepte, et je le remercie vraiment. Il s'appelle Julien Perret. Il accepte un peu mes exigences. De
Vous
pouvoir...
êtes un vrai binôme, quoi.
Ouais, et il me laisse quand même patouiller dans ma matière, digérer ce que j'ai tourné par le toucher des images comme ça. Et puis après, il s'en empare, et puis je le laisse regarder tout seul pour ne pas trop l'embêter non plus. Et puis après, on échange beaucoup, surtout. Voilà, et il m'apporte du recul.
Eh bien, on va écouter Porqué tes basses.
Quedaron por decir, se dormirán.
Alors Sylvie, pourquoi tu nous as choisi ce morceau « Porque te vas » ?
Alors, c'est un morceau que j'écoute, je l'ai découvert, je devais avoir 4-5 ans, je pense. Je ne sais plus quelle année il est, peut-être 77 ou ouais, quelque chose comme ça. Je vous donne mon âge comme ça, indirectement. Et c'est un souvenir très personnel de vacances chez ma cousine que j'adorais, voilà. Et depuis, c'est un morceau qui ne me quitte pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça, je l'écoute régulièrement. C'est pas que je sois quelqu'un de nostalgique, mais si, quand même un petit peu. Mais voilà, ça me rappelle plein de choses sur l'enfance. Surtout, c'est aussi la musique d'un film qui s'appelle « Cria Cruevos » de Carlos Saura, qui est absolument merveilleux. Où à un moment donné, ça parle de la perte, c'est une petite fille, et elle écoute sur son manche-disque ce morceau. Et puis il y a un plan dans ce film qui est absolument merveilleux, qui pareil, ne me quitte pas, parce que je sais pas, esthétiquement parlant, il se passe un truc, il y a de la poésie là-dedans, je trouve que c'est une piscine en fait, qui est dans la propriété, où cette petite fille est très seule et se promène toute la journée comme ça. Elle a des grands yeux sombres, et elle regarde cette piscine, et elle est vide, et il y a des feuilles mortes dedans, et voilà. Donc ça
te rappelle ton enfance, ouais. Et ça te suit encore maintenant.
Ouais, c'est vraiment un morceau fondateur, enfin de plein de trucs. Voilà.
Et est-ce que tu travailles en musique ? Est-ce que la musique est importante pour toi dans ton travail ?
Alors oui, énormément, on va dire dans la partie montage ou même préalable. C'est-à-dire que des musiques peuvent me donner envie ou des idées, voilà, de mise en scène ou de même en documentaire, hein, ou de choses où je me dis tiens ça, mais tout le monde le fait, je crois, hein, on est en voiture, il y a des images qui viennent,
ouais, on écoute un truc. De la musique.
Exactement. On passe la tête derrière la vitre ou dans le train. Donc c'est hyper. Par contre, je suis incapable de travailler en écoutant de la musique, ouais, ou d'écrire en écoutant de la musique.
Et comment, impossible. Donc tu es plutôt spécialisée dans le documentaire, comment tu choisis tes thématiques ? Qu'est-ce qui va t'amener à choisir tel ou tel thème en tant que réalisatrice ?
Alors, en fait, on se rend compte au bout de quelques films que finalement, c'est toujours, c'est après coup qu'on analyse ce qui nous intéresse, parce qu'au début, on ne fait pas exprès. Moi, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'enfance, d'adolescence, notamment dans les films, ou en tout cas de sujets pas toujours super drôles, mais je suis pourtant quelqu'un de drôle. Mais...
C'est un petit peu nostalgique.
Ouais, aussi. Mais en tout cas, moi, quand j'étais ado, moi, je voulais être éduxpé. Hein. Et aujourd'hui, ouais, je fais beaucoup de films, voilà, sur l'enfance et
ça,
la... Voilà, donc je sais pas, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Les thématiques, c'est... Enfin, l'idée, c'est une rencontre.
Voilà, c'est une rencontre.
Puis on est toujours à l'affût, enfin, on est obligé en fait. C'est-à-dire que ben, on se promène, on discute avec des gens, on écoute la radio, on est toujours en train, les oreilles un peu ouvertes comme ça, à se dire c'est quoi mon prochain film. Et il faut que quelque chose vienne vous percuter comme ça et vous donne envie de raconter quelque chose, quoi. Et puis d'un seul coup, il y a une idée, mais une idée, c'est pas... C'est un sujet, oui, mais ce n'est pas un film. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de ça?
Tu es à la rencontre des personnes, il faut que tu ailles creuser le sujet, aller voir ce qui peut être intéressant aussi.
Trouver l'axe, exactement.
Eh bien non, on va faire un petit jeu.
Ah, allez.
Alors c'est le jeu « Je te dis, tu me dis ».
Ok.
Alors tu as le droit, voilà, c'est open bar, tu fais ce que tu veux, tu peux ne rien me dire, me dire un mot, me dire une phrase.
Ok.
Si je te dis « matin ».
Silence.
Si je te dis « musique ».
Oh, très fort.
Si je te dis enfance.
Bonheur, je peux dire deux mots.
Tu peux dire tout ce que tu
bonheur,
veux.
Bonheur, prairie, soleil, arbre.
Et piscine avec des feuilles mortes.
Aussi.
Si je te dis captation.
Oui, plein. Garder quelque chose, trace.
Si je te dis moteur.
La vie.
Si je te dis thé.
Vert.
Si je te dis rire.
Toujours, il faut.
Si je te dis nostalgie.
Oh, ouais. Pour apprécier ce qu'il y a, je crois qu'il faut aussi regarder derrière. Enfin, je sais pas. C'est...
Si je te dis réfugié.
Oh, triste.
Si je te dis partage.
Ça passe que par là, tout.
Si je te dis projet.
Oh, faut pas que ça s'arrête.
Si je te dis humanité.
S'il en faut plus, toujours.
Et si je te dis avenir,
j'espère. En un mot, je vais essayer en un mot. Espoir.
Eh ben, nous allons écouter Jimmy par Moriarty.
Jimmy, won't you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. I rose lead to Rome with the Buffalo. Do what you do. If you remember.
voilà qui me dérouille. Bon, changeons de sujet.
Alors maintenant, nous allons parler d'un projet que tu es en train de réaliser. C'est un documentaire sur une classe spéciale d'enfants réfugiés au collège Aimé Césaire à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon. Raconte-nous un petit peu de quoi parle ce projet.
Alors, ce projet, il parle déjà du fait qu'aujourd'hui en France, il y a effectivement des enfants qui sont réfugiés, qui sont migrants. Mais il faut savoir que l'État français, en termes, on va dire, d'éducation, a une obligation, parce qu'on a signé des accords internationaux sur l'accueil, et que quel que soit le statut des parents de ces enfants ou des enfants eux-mêmes, on leur doit de leur apporter éducation et enseignement. Donc, pour ce faire, il y a un dispositif qui s'appelle les classes UPE2A. En fait, ces enfants sont scolarisés en fonction de leur niveau, en sixième, en cinquième, au collège, d'où ils viennent. Enfin, en fonction de, il y a des tests au départ qui sont faits. Ils sont intégrés dans des classes classiques.
Alors, ils parlent peu ou pas du tout le français.
Et quand ils ne parlent pas, ou peu le français, alors, ce n'est pas dans tous les collèges qu'il y a ça quand même.
Ah oui.
Mais il y a quelques dispositifs, en région, en tout cas vers Rhône-Alpes. Et on leur propose, en plus, dans une classe spécifique, de se remettre à niveau sur toutes les matières en français, pour qu'ils puissent réintégrer le reste de la semaine la classe une classique classe, et passer une scolarité normale avec les autres.
Et donc, avec ces enfants, on t'a demandé de réaliser un documentaire sur un projet qu'ils sont en train de mener avec leurs professeurs.
Alors, en fait, ces enfants, tout au long de l'année, vont apprendre le français par le biais d'ateliers qui sont proposés par leurs professeurs et dont le thème, cette année, est autour du cinéma. Voilà. Leur professeur, Géraldine Tamet, c'est quelqu'un d'extrêmement investi et qui vraiment donne énormément pour ses enfants dans la recherche de projets. Et en même temps donc, que cette envie qu'elle avait, elle, de leur faire connaître le cinéma, il s'est trouvé qu'à Valence, aujourd'hui, dans une société de production d'animation, est en train de se faire un film d'animation qui, au départ, vient de dessins des enfants d'Izieux. Alors, pour refaire un peu l'histoire, les enfants d'Izieux sont 44 enfants qui ont été déportés, donc en 43 par sous ordre de Klaus Barbie. Et ces enfants étaient tous réfugiés juifs, avec des nationalités très différentes,
dans une maison
à Izieux, où ils ont passé, pour certains, plusieurs mois en tout cas. Et donc, c'est un couple qui les hébergeait. Donc, il y avait une classe. On leur donnait la classe. Il y avait une institutrice. Et puis, il y avait également la vie de tous les jours, de tous les soirs, avec des veillées. Et donc, pour les occuper aussi, ils avaient des dessins. Ils écrivaient à leurs parents, mais ils dessinaient aussi leur vie. Le soir, pour les veiller, certains avaient préparé pendant toute une période des rouleaux de papier scénarisés. Donc, ils écrivaient des petites histoires et ils les dessinaient. Et c'est des rouleaux qui faisaient à peu près 1,80 m chacun et qu'ils déroulaient devant une bougie, donc sur le principe de la lanterne magique. Et le soir, les plus petits faisaient les bruitages et puis ceux qui étaient un peu plus grands pouvaient doubler en fait ces histoires.
Comme un cinéma en fait.
Exactement.
Pour le soir.
Voilà. Et donc, ces dessins, quand la rafle a eu lieu, la directrice qui n'était pas là, parce qu'elle cherchait, elle sentait que ça allait mal peut-être se passer, donc elle cherchait une solution pour déplacer ses enfants. Seulement, malheureusement, quand elle est revenue, ils avaient tous disparu et ont tous été emmenés dans les camps. Et la première chose qu'elle a fait, c'est récupérer tous ces dessins et les mettre à l'abri. Pendant des années, ils sont restés dans un garage à Paris, jusqu'au procès Klaus Barbie, où elle les a ressortis.
Ouais.
Et donc, ils ont été restaurés, ces dessins. Et puis, la Maison d'Izieux a eu l'envie d'en faire quelque chose qui soit pour les rendre un peu plus visibles. Et puis, il y a une sorte d'hommage à ces enfants. Et donc, ils ont confié au studio Parmi les Lucioles à Valence et aussi
pour faire un montage.
d'en faire un film d'animation, parce qu'en fait, c'est des dessins au départ. Donc, y a deux animatrices qui ont travaillé aussi au dessin intermédiaire. Mais tout l'intérêt du projet, c'était aussi de garder, de ne pas faire un film d'animation qui soit complètement en dehors de l'esthétique et de
l'histoire qu'elle porte aussi.
Oui, et puis la simplicité de ces dessins, qui étaient juste des dessins d'enfants en crayon de couleur, quoi. Donc, tout le studio et ces deux jeunes femmes, notamment avec l'école Émile Cole, ont travaillé aussi sur l'élaboration de ce film. Et donc, on a proposé à ce collège, à cette classe, qui travaille régulièrement aussi avec la Maison d'Isieux, de faire les bruitages, de donner leur voix au doublage pour ce dessin animé, ce film d'animation. Donc en fait, ce que je trouve très beau, c'est que c'est enfants réfugiés d'hier et d'aujourd'hui. C'est que
exactement,
même si
les deux histoires, sans se recouper, se recoupent aussi. Ce sont des enfants qui ont dû fuir leur pays, qui ont perdu leur famille, en tout cas une partie de leur famille, et qui se retrouvent à doubler dans leur langue en plus, parce que ce qui est très intéressant dans ce que j'ai pu voir, c'est qui vont se servir aussi de la musicalité de leur langue, et qui ressort dans la bande son, dans les dialogues, et c'est
exactement.
Je pense qu'on va tous pleurer
beaucoup
de fois en regardant ce documentaire, parce que à la fois on va utiliser leur richesse et on va leur permettre de raconter aussi leur histoire à travers cette élaboration de bande sonore.
Et donc ce documentaire, donc c'est l'histoire avec les enfants d'Isieux, c'est une partie du film parce que je les suis toute l'année en fait. Donc dans le travail de leur apprentissage et avec leur professeur, donc il y a des ateliers culinaires, il y a aussi tout le travail d'apprentissage et comment, parce qu'au départ, il faut imaginer qu'il y a 15 gamins ils viennent de
pays différents.
Exactement.
Qui se présentent, les enfants.
Voilà, au départ, ils ne se parlent pas forcément entre eux qu'avec des gestes. Et puis l'année avançant, le français va un petit peu plus être là. Je les ai vus encore hier, ils ont progressé énormément. Donc on va filmer tout ça. Et puis ils vont rencontrer aussi plein d'acteurs réfugiés, peut-être aussi pour certains comme eux, qui vont peut-être aussi leur dire que c'est possible de vivre en France quand on arrive d'ailleurs. Et puis l'idée du film et aussi du projet de toute l'année, c'est de dire à ces enfants, vous êtes avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous arrivez et votre culture, il faut la garder, mais vous allez vivre aussi en France.
Oui, parce qu'il y a un moment donné où ils vont cuisiner et cuisinent un plat
Chacun
de leur
partage,
pays. Et ils partagent après avec le reste.
Complètement.
Donc c'est à la fois leur dire qu'ils sont et qu'ils doivent s'adapter. Et apprendre
exactement. Mais restez ce que vous êtes surtout et faites-le partager. Et et puis c'est un enjeu parce que c'est des enfants qui, pour la plupart, leurs parents peuvent être aussi en demande d'asile. Donc ils doivent aussi justifier d'intégration, donc de parler la langue. Et les enfants, cette année-là aussi, leur permet de passer un examen en fin d'année pour justifier de la langue française. Donc ça peut aussi aider leurs parents dans leur parcours d'intégration.
Et toi, par rapport au tournage, comment s'est passée cette rencontre avec les enfants ?
Alors super, parce que c'est des enfants, donc ils sont top quoi. Et puis on est rentré dans le projet par des ateliers, donc de travail de la voix. On a commencé comme ça avec les enregistrements. Ils ont travaillé avec un bruiteur et une jeune femme qui travaille avec eux sur la voix, qui les dirige. Et puis ils ont commencé l'année par quelque chose de très ludique vis-à-vis du cinéma. Ils ont découvert ce que c'était. Donc moi, quand je suis arrivée avec mon équipe, ma perche et puis mes questions,
ils savaient déjà
ce que c'était. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis c'est des rendez-vous réguliers. Donc au début, j'ai bien expliqué de quoi le film allait parler. Donc au début,
ils sont très naturels ou quand même ils sont un peu sur leur réserve par rapport justement à leur situation.
Ils sont plutôt assez naturels, mais ils, pour certains, ça reste encore difficile d'expliquer d'où ils viennent, par où ils sont passés. Donc c'est à travers des vecteurs comme ça d'activités, des choses que finalement ils se racontent.
Bien sûr. Et justement, les enfants, à un moment donné, ils disent on ne savait pas qu'il se passait ça, que quand on voyait ça à la télé, on pensait que c'était dans le film. Et ils découvrent aussi d'autres métiers et l'envers du décor. Donc ça peut aussi déclencher chez eux des passions et se dire je peux faire ça, je peux faire ça, et les aider aussi à bien grandir.
Complètement. C'est l'idée, c'est aussi leur montrer. D'où qu'on vienne, quelles que soient les difficultés qu'on a, à un moment donné, ils vont aussi exister dans un film. Ils auront donné leur voix, leur corps, parce qu'ils ont fait des bruitages absolument merveilleux. Et voilà, tu participes à une œuvre, et puis ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. C'est assez chouette, quoi.
Et donc l'objectif, c'est que ce soit projeté très bientôt.
Alors au final, le documentaire donc sera diffusé sur Canal+, donc je pense en 2023. Et puis le film d'animation, c'est autre chose. Il sera normalement à la BNF à Paris, puis à la Maison d'Isieux, et puis il y aura certainement des projections.
Donc là, tu réalises, est-ce que tu montes ?
Alors oui, celui-ci, je vais le monter entièrement.
Et alors, tu arrives à ressortir les émotions que tu vis quand tu tournes ?
Oui, parce que... Alors, en tout cas, déjà, je pense que quand on monte, on ne tourne pas de la même manière que si on n'a pas monté avant. C'est-à-dire que j'ai discuté avec des amis réalisateurs qui ne sont pas du tout monteurs au départ. Quand on part avec une caméra, une équipe, et qu'on a monté avant, on sait très bien de quoi... Enfin, on sait ce qui va pouvoir manquer. Mais ça, alors, c'est très efficace, c'est super. Mais ça peut être aussi un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce qu'on peut se censurer aussi, c'est-à-dire se dire, là, on a ce qu'il faut, j'ai ça, ça, ça.
Peut-être puis, passer à côté d'un moment.
Oui, donc il faut aussi retrouver un petit peu d'innocence sur certains trucs et se lâcher un peu plus. Mais on est plutôt efficace, parce qu'on sait ce que c'est que devoir raconter quelque chose quand on n'a pas l'image. Donc, on pense très, très...
Vraiment, moi, je languis de pouvoir voir ce documentaire. Le peu d'extraits que j'ai vu, c'est vraiment frais. Et c'est tellement, on va dire, contemporain. C'est tellement ce qui se passe aussi en ce moment que, sans forcément se projeter là-dessus, mais c'est vrai que c'est le cas de beaucoup d'enfants.
Ouais.
Et je trouve qu'ils puissent se retrouver dans un projet pareil, c'est exceptionnel.
Moi, ce que je trouve important, et je pense que dans tous mes films, en fait, c'est ce qui peut aussi ressortir, c'est qu'on n'est pas dans une vision... C'est dur. On parle de conditions d'enfants qui sont difficiles. Mais au bout, il y a une petite lumière. C'est quand même... là, ils sont en France, ils sont pris en charge. Mmh. Même si rien n'est parfait, on est bien d'accord. Mais ces enfants vont pouvoir... ils sont porteurs aussi de quelque chose. Et on leur apporte un truc qui peut nous faire espérer un petit peu un avenir meilleur pour eux, quoi. Donc je pense que c'est important de le dire aussi. Il y a des choses qui se font quand même.
Eh ben, on va écouter M avec 7 R.
Chaque
est passé. Va, tu le retrouveras. Oh my, yeah.
Voilà qui me dérouille. Bon, changeons de sujet.
Alors Sylvie, tu as aussi un autre projet en cours de réalisation.
Oui, c'est aussi un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose dont on parle peu, je pense. En tout cas, peut-être pas sous cet angle-là, toujours dans les médias. Ça a parlé de la maladie psychique et surtout du rétablissement. Et comment des gens qui, après des parcours souvent longs et difficiles d'hospitalisation, de périodes d'accalmie, de réhospitalisation, comment aujourd'hui ils peuvent se réinsérer ? Il faut savoir aujourd'hui qu'en psychiatrie, on essaie, et c'est plutôt bien, de garder les gens le moins longtemps à l'hôpital. Sauf que quand ils sortent, souvent il n'y a pas grand-chose qui existe. Ils sont souvent très affaiblis du point de vue relationnel avec un entourage qui a pu démissionner aussi parce que c'est difficile, un travail qu'on a perdu parce que les périodes d'hospitalisation font que vous n'êtes plus très fiable, et puis voilà, puis des portes qui se ferment, donc c'est difficile. Peut-être des fois aussi beaucoup de chimie, de médicaments qui vous rendent aussi plus faible parce que des problèmes de fatigue, de manque de concentration. Et donc aujourd'hui, la maladie psychique en France, elle est méconnue, en tout cas dans la sphère, on va dire, plus professionnelle et dans le monde de l'entreprise et du travail, parce que c'est une maladie c'est un handicap, hein, ça a été reconnu handicap, mais ça reste très invisible. J'ai discuté avec beaucoup de représentants des ressources humaines qui vous diront quand quelqu'un arrive en fauteuil roulant, c'est triste à dire, mais on sait qu'il est handicapé, ça se voit et on sait faire. Quand quelqu'un arrive et vous dit je suis bipolaire ou je suis schizophrène, et même si je suis en rétablissement, ça fait très peur. Parce qu'on vous parlera toujours du mec qui a quitté l'hôpital et qui a tué deux femmes, alors que c'est peu d'histoires finalement dans la réalité qui arrivent comme ça. Mais en tout cas, voilà, donc ce sont des gens qui se retrouvent souvent assez seuls. Et pour se rétablir, il faut se réinsérer dans la société. Et souvent, ça passe par le travail, parce que c'est valorisant de travailler. En tout cas, on est en contact avec des gens et on n'est pas seul chez soi. Et donc, j'ai rencontré une association à Lyon qui travaille avec ces gens et qui les accueille tous les jours. Donc, il faut être sevré de toute substance toxique. On ne parle pas de médicaments. Hein. On parle s'il y a des drogues, c'est des addictions. Il faut pas... Voilà. Il faut être suivi par un psychiatre à l'extérieur. Et puis, il faut avoir envie de participer à quelque chose de collectif. Parce qu'en fait, le fonctionnement de cette association qui s'appelle le Clubhouse est tout à fait particulier et assez novateur chez nous, puisqu'en fait, ça existe depuis les années 50 aux États-Unis et dans plein d'autres pays dans le monde. C'est quelque chose qui est complètement basé sur la pair aidance. C'est-à-dire qu'en fait, tous les membres de ce club, on va dire ce club, voilà. Déjà, on ne dit pas des patients, on ne dit pas des malades, on dit des membres. Que vous soyez membre avec une pathologie ou tout simplement encadrant, déjà, on ne fait pas la différence parce que...
Voilà, on est là.
On ne sait pas, ouais, voilà, on est là. C'est non médicalisé, il n'y a aucun médecin dans la structure. Et on vient quand on veut. Et personne ne nous oblige. Et bien, ce qui est assez fou, c'est que comme on ne nous oblige pas, et ben, les gens viennent la plupart du temps tous les jours. C'est quand même des gens au départ qui, pour la plupart, ont du mal à sortir de chez eux, peuvent faire une phobie sociale, ont du mal à prendre le métro. Mais là, ils se disent, je vais retrouver mon club avec... Et tout est autogéré.
D'accord. Et donc, on leur propose des ateliers toute la journée.
Exactement. Ils proposent ensemble. Des ateliers. Donc, en fait, il y a quand même des encadrants, mais entre eux, ils échangent leurs compétences aussi. C'est-à-dire que j'étais graphiste avant d'être hospitalisée, j'ai perdu mon travail, mais aujourd'hui, je vais peut-être pouvoir vous aider à faire la plaquette du club. Je vais t'aider à faire ton CV chez Mettre en Page. Moi, j'étais plutôt, je ne sais pas, dans la cuisine. Ah ben, c'est moi aujourd'hui qui vais préparer les menus de la semaine. Moi, j'étais comptable. Et le club fonctionne entièrement en autogestion par les membres. Alors, avec des encadrants qui aident quand même sur certaines choses, mais c'est impressionnant. Et puis donc voilà, les gens se sentent valorisés. Et puis il n'y a aucune compétitivité. C'est qu'on ne nous oblige à rien. Enfin, ils ne sont obligés de rien, c'est ce qu'ils disent. Et ils ne sont pas jugés. Ils peuvent toucher à des choses. Ils peuvent ouvrir un ordinateur alors qu'ils ne savaient pas faire avant. Personne viendra les...
Et ça leur permet de se réintégrer à leur rythme aussi.
Et alors surtout... ce club, le Clubhouse, cette association, sa force aussi, c'est d'avoir un réseau d'entreprises qu'elles sensibilisent. C'est leur fonction première aussi, c'est la sensibilisation aux entreprises. Pour dire, voilà, vous pouvez accueillir des personnes en rétablissement. La maladie psychique, oui, elle demande
un accompagnement plus particulier.
Un accompagnement particulier, mais quand on sait... Et quand on est prévenu, et on peut mettre en place des choses. Et c'est possible. Voilà. Et c'est souvent, dans le retour des entreprises qu'il y a pour l'instant, des personnes qui sont des vraies forces positives, parce qu'elles ont un background qui fait qu'elles appréhendent aussi les choses différemment, elles sont heureuses aussi d'être là, et puis il y a tout à apprendre dans la différence aussi. Hein. Donc je vais...
C'est un projet que tu es en train de mettre en place depuis longtemps ?
Alors là, ça fait... Oui, parce qu'en fait, le Covid est un peu passé par là. Donc j'ai commencé à l'écrire au premier confinement, à peu près. Et puis après, il y a eu pas mal d'allers-retours avec les diffuseurs, les chaînes, parce qu'on en parlera peut-être après, mais le parcours d'un film, c'est pas si simple, il suffit pas d'avoir une idée. Donc là, je vais rentrer en tournage. Ça y est, j'ai mes personnages, j'ai rencontré tout le monde. Donc je vais suivre quatre personnes qui sont en démarche de retrouver un travail ou déjà réinsérer.
Ouais. Donc déjà dans l'association. Oui. Et qui vont se réinsérer.
Voilà, cette association, c'est un peu le cœur du film où chacun va se retrouver, mais je les suis dans leur vie aussi et dans leurs projets. Certains ont déjà retrouvé un emploi, et donc je vais les suivre en entreprise. D'autres sont dans des démarches d'entretien, de stage, et d'autres sont en recherche.
Et donc, justement, tu parlais de la création d'un film et de projets, donc c'est toute une équipe, mais... Comment, je veux dire, par rapport à la recherche de financement, comment ça se passe ?
Alors, c'est un autre métier. C'est le métier de la production. Mais nous, en tant que réalisateurs auteurs, la première chose, c'est d'abord d'écrire un projet. Enfin, quand on a un projet, il faut le mettre sur le papier pour rencontrer déjà le producteur qui va vouloir le vendre.
Donc, tu as déjà trouvé les financements avant même d'avoir démarré le tournage.
Alors, c'est mieux. Ou alors le producteur est vraiment a beaucoup d'argent d'avance et puis on peut aussi décider de prendre un risque, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et puis voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'argent public aussi. Hein, c'est que il y a le CNC qui finance en partie, mais pour avoir un apport du CNC, on doit aussi avoir des chaînes d'abord, hein, un diffuseur. Donc la première chose, c'est de trouver un diffuseur via le producteur. Donc il faut d'abord que le producteur accroche à votre projet. Donc il faut le choisir, ce producteur. Il faut que sa ligne éditoriale rentre dans
donc
la...
Donc tu as écrit tout ton projet, que oui. Le producteur ait envie de le produire, ensuite va chercher les financements, et ensuite tu peux lancer...
Oui, alors entre-temps, il y a plein de phases d'écriture aussi.
Sûrement, mais je veux dire au niveau de la concrétisation
oui,
du
exactement.
Projet.
Oui, exactement. Alors, concrètement, en gros, hein, en moyenne, sur un projet comme ça, et même les deux projets dont on a parlé aujourd'hui, ce qui se vérifie sur les trois autres derniers films aussi, entre l'idée... jour J, et puis la diffusion, il va se passer deux ans et demi.
Voilà. D'accord, ouais. Donc, t'as plusieurs projets en cours, et les projets, non, ou t'es vraiment sur un projet
alors,
à temps plein.
J'ai au moins deux projets en cours, à des stades différents, c'est-à-dire un en montage, un en tournage, mais c'est aussi parfois beaucoup de temps à passer à écrire, et sur des projets qui on va pas au bout parce
que des idées on en a toujours plein.
Ah ben oui, c'est ça. Mais écrire un premier projet, c'est quand même au moins un mois, deux mois de travail, quoi. Donc avec des allers-retours. Donc c'est aussi beaucoup de projets qui n'existeront pas ou qui auront peut-être leur place
ou
dans
un
autre.
Voilà.
Oui, mais voilà, c'est aussi
donc ce projet
d'écriture.
va être prêt pour quand?
Alors lui, il va être normalement en montage en novembre-décembre, donc aussi en 2023.
Waouh.
Ouais, ça va être...
Et si on veut retrouver tout ton travail?
Alors, mon travail, il est soit visible donc, pendant les phases de diffusion, que ce soit sur Public Sénat, France Télévisions ou Canal+, bah, ce sera sur les plateformes. Ouais. Sinon, sur le site de Cocotte Minute Production, voilà, c'est ça, cocotteminuteproduction.fr, il y a tout le catalogue de la société avec laquelle je travaille. Et on peut voir au moins des extraits ou avoir des Vimeo.
Avoir des liens après pour pouvoir aller voir les documentaires.
Exactement.
Ben écoute, Sylvie, un grand merci d'être venue ici à Radio BLV.
Je suis ravie, merci.
Vraiment d'avoir pu découvrir ton travail, qui est un travail... Voilà, on rencontre très peu de réalisatrices et de chefs monteuses.
Ben, c'est un plaisir d'avoir des espaces aussi pour parler de notre travail, parce que c'est pas forcément évident. Et merci de me laisser déjà cette place.
Merci à Sylvie pour la technique. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. Merci.
Merci.
Corrigez-moi si je m'égare, ceci me semble être le hammam de ces messieurs-dames. Hein.